Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord. C'est le début des vacances. Ah non, pardon, c'est que lundi, c'est vrai. Vous avez le droit d'être fatigué aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Ah mince, tout le monde n'est pas en vacances. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignant, donc j'en profite à chaque fois au début des vacances pour. J'espère que voilà, vous allez bien. Il n'y a pas tout le monde dans l'assemblée. Le message de ce matin, je pense que c'est un message pour tout le monde. Et c'est un message de société. Et donc, je nous encourage à rester éveillés. D'accord? Si tu vois que ton voisin s'endort, tu as le droit de lui donner un petit coup de coude pour le. Et puis, qu'on puisse le partager. Voilà. À toi aussi, Bernard. Si tu t'endors, on te mettra un coup de coude. Donc, fais bien attention. Avant juste de commencer le message, je voulais juste dire que c'est vrai que les responsables, comme la plupart des gens ici, on a une famille, un emploi, beaucoup de charges à porter. Mais sachez que voilà, nous voulons être disponibles pour que chacun puisse se sentir soutenu et accompagné dans sa marche avec notre précieux Seigneur. Voilà. Et on trouvera toujours du temps pour s'occuper de quelqu'un. Et nous fonctionnons dans une église où c'est le corps qui travaille ensemble. Donc ne vous sentez pas mis de côté ou mis à part parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se font et parce qu'il y a une grosse activité dans l'église. Mais au contraire, voilà, sentez-vous la liberté de venir voir les anciens des diacres et puis on redirigera pour que vous soyez accompagnés dans ce que le Seigneur nous demande de vivre. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne normalement tout le monde, à part si vous vous prenez pour Dieu, mais je ne pense pas, c'est le temps. Je vais commencer par lire une citation d'un philosophe américain qui s'appelait Dallas Willard. Bon, c'est traduit, bien sûr. Il dit, le fait d'être pressé, la précipitation est le plus grand ennemi de la vie spirituelle contemporaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Au premier abord, j'avoue que je me suis dit, ouais. Et puis plus on y réfléchit, plus on creuse, et puis on se dit, ah oui, quand même, quand même. Le fait d'être pressé, la précipitation est le plus grand ennemi de la vie spirituelle contemporaine. Laissez-moi nous convaincre ce matin que le fait d'être toujours à fond dans notre vie quotidienne est la racine de beaucoup d'autres problèmes que nous n'arrivons pas à traiter et qui va au mieux nous pourrir la vie et au pire, va nous détruire à petit feu. Le stress, la précipitation, qu'est-ce que ça crée? Ça produit de la solitude, ça brise des relations, ça détruit des familles, ça crée de la fatigue, de la colère, de l'irritation. Ça entraîne des personnes dans le burn-out ou la dépression. Le monde aujourd'hui est stressé. Peut-être vous vous dites, oh ben non, chez nous ça va. Mais de manière générale, le monde est stressé. Tout le monde est pressé. Et on peut dire qu'il y a la plus grande épidémie d'anxiété et de mal-être jamais répandue. Quelques statistiques en France, chez nous. Selon l'Institut IFOP, en 2022, 95% des Français se disent stressés ou anxieux. C'est énorme! Selon Ipsos, 53% des adolescents en France sont touchés par des troubles liés à l'anxiété. Un adolescent sur quatre dit n'avoir personne pour parler de ses problèmes. Corrie ten Boom, vieille dame remarquable, si vous ne la connaissez pas, elle gagne à être connue. Elle a dit, si le diable ne peut pas te pousser à pécher, il te rendra occupé. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va réfléchir ce matin. Si le diable ne peut pas te pousser à pécher, il te rendra occupé. Dans la tradition orientale chrétienne, la vie spirituelle est considérée comme un voyage. Depuis le moment où on devient chrétien, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et au travers duquel l'âme progresse, de guérison en guérison, et tout ça pour l'amener vers une union pleine avec Dieu. Est-ce que c'est aujourd'hui cette vision de la société, dans la société occidentale, est-ce que dans notre société aujourd'hui, nous n'avons pas perdu ça de vue ? Réalisons-nous qu'un des buts centraux pour nous en tant que chrétiens, c'est de vivre en communion avec Jésus. Et que pour cela, nous devons passer, et la Bible nous y encourage à de nombreuses reprises, par un long processus, souvent toute une vie, dans lequel nous sommes guéris, délivrés, transformés. Pour ceux qui étaient là, Maxime nous l'a rappelé dimanche dernier dans son témoignage que ces luttes n'étaient pas terminées. Laissez-moi nous rappeler à tous ce matin qu'une partie des nôtres ne l'est pas non plus. Nous vivons toujours dans la chair qui a sans cesse des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous sommes donc tous engagés dans ce long voyage de guérison et de sanctification qu'il ne faut jamais stopper. D'accord ? Jamais stopper. Pour viser ce but ultime qu'est l'union, la communion avec Jésus-Christ, sa sainteté, sa pureté, sa gloire. Deux citations de la Bible, Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et ça va perdurer. Ça va perdurer jusqu'à ce que nous ayons un nouveau corps. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Beaucoup trop de personnes chrétiennes, après des années de conversion, n'arrivent pas à avoir une vie spirituellement saine, avec une foi dynamique et un mode de vie équilibré. Ce n'est pas un jugement que je pose, c'est juste un constat pastoral. Ils n'arrivent pas à avoir une vie basée sur l'amour et le service. Ils n'arrivent pas à construire un foyer fort et généreux. Une des raisons majeures pour laquelle on n'y arrive pas, on ne grandit pas, on ne devient pas mature, une des raisons centrales pour lesquelles les mariages ou les familles ne s'épanouissent pas, la raison principale pour laquelle certaines personnes ne se rétablissent pas d'un traumatisme, c'est le fait de rendre sa vie occupée à autre chose. Le fait majeur est de ne pas prendre le temps nécessaire pour guérir, pour grandir de la bonne manière. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? 3 ans après ma conversion, c'était il n'y a pas longtemps, hein, j'ai dû prendre 2 années, 2 années, pour laisser Dieu me guérir de traumatismes de l'enfance. Et il a fallu encore 5 ou 6 années derrière pour que Jésus achève une œuvre solide de reconstruction en moi. Il a donc fallu près de 8 ans pour que je sorte de traumatismes importants. Alors oui, les jeunes, mais pas que les jeunes, les vieux aussi y vont maintenant. C'est un peu plus de temps que de passer au drive à McDo ou à Becca. Je remercie Pierre ou Nadine cette année pour cet exemple qu'ils ont été en ayant eu ce courage de dire stop, j'ai besoin de m'arrêter et de prendre du temps pour guérir, pour grandir, pour me reposer. Parce qu'ils ont senti ce besoin-là. Les psychologues, aujourd'hui, posent un nouveau diagnostic. Et ils appellent ça, c'est le mal d'être pressé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ou le mal de ne pas avoir le temps. Voilà comment ils le définissent. Une personne souffre du mal d'être pressé quand elle se sent tout le temps à court de temps, ça vous arrive ça? Et qu'elle essaie de faire beaucoup de choses très vite, et quand elle ne supporte aucun retard. Alors un petit diagnostic pour savoir si on en souffre. Est-ce que quand tu fais la queue dans un magasin, vous savez à la caisse, quand vous êtes à Carrefour, Auchan ou Géant, est-ce que vous changez de fil parce que là-bas ça va plus vite? Est-ce que quand tu es au péage, tu as vu le sketch de Gad Elmaleh et tu sais que toi, tu n'es pas le blond et que tu auras toujours la mauvaise file et tu commences à t'énerver? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des tas de choses en même temps et puis tu en oublies une partie? C'était juste une petite parenthèse pour montrer que peut-être quelque part, nous souffrons tous de ce mal d'être pressés. Je veux bien de l'eau, Henri, si c'est possible. À ce stade, je voudrais préciser que d'avoir des choses à faire n'est pas mauvais en soi. Ah, mince, il est parti. Bon, merci. Mais l'eau sera meilleure. Les parents sont très occupés avec le travail ou l'éducation des enfants. Les enfants ont leurs études et leur croissance vers la maturité. Les personnes âgées ont toujours des milliers de choses à faire. Jésus lui-même avait des journées bien remplies. Parfois, on peut vivre dans la précipitation car on va passer 5 ou 6 heures sur des jeux vidéo ou devant une série TV et il ne nous reste plus assez de temps pour faire les choses calmement. À avoir un emploi du temps bien chargé car on s'est fixé comme but ultime dans la journée d'atteindre le niveau 28 de notre jeu vidéo ou alors parce que nous avons visité 2 personnes de l'église que nous aidons aux travaux, que nous allons parler à notre voisin de Jésus et que nous avons 3 chapitres de la Bible à lire. Ces 2 façons de remplir son agenda, bien sûr, n'auront pas le même impact dans notre vie. Parfois, nous le remplissons avec du vent. Alors, parfois, le vent nous fait du bien, mais d'avoir que du vent dans notre vie, C'est pas super. Par-dessus ça, je crois qu'il nous faut, il faut observer quand nos agendas deviennent trop remplis et que nous n'avons pas assez de temps pour tout faire. Et je vous assure que je me prêche à moi en premier. Comment le voir ? Eh bien, c'est quand nous ne faisons que courir partout. Nous nous sentons en suractivité cérébrale. Je ne sais pas si ça vous arrive. Nous ne faisons plus attention à quoi ? Aux relations humaines, avec les personnes que nous côtoyons. Et les signes qui se manifestent autour de nous, c'est quoi ? Ou en nous plutôt, c'est l'irritabilité. On ne peut pas me parler, je suis de suite énervé. La fatigue, la perte de sommeil, une forme de dépression, je fais Calimero, de l'anxiété qui vient vite, de la colère, etc. Et nous perdons alors la capacité de manifester de la compassion avec ceux que nous côtoyons, de la gratitude, de la patience. Le temps de sommeil moyen des Français est passé en dessous de 7 heures par nuit. C'est pas assez les jeunes, hein ? Les nuits des Français ont perdu entre 1h et 1h30 en 50 ans, selon le baromètre de Santé publique France. L'omniprésence des smartphones, des écrans, mais aussi le bruit, explique entre autres ce phénomène. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Farine nous parle de ça ce matin ? Eh bien parce que je suis convaincu que de vivre à 200 à l'heure a un impact sur notre vie et notre santé spirituelle. Courir tout le temps sans jamais prendre du temps pour prendre soin de notre vie spirituelle n'est pas bon. Dieu nous avait précédés depuis longtemps, Exode 20. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras. Travailler, c'est bien. Et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Notre vie spirituelle peut devenir terne, morne, réduit presque à être éteinte, au lieu d'être rempli d'amour, de zèle, de foi, de compassion. C'est là où on devrait être. Vivre tout le temps dans la précipitation a un impact majeur sur 2 choses essentielles dans ma vie spirituelle. C'est ma relation avec Dieu et ma relation avec mes frères et sœurs. C'est pas anodin de courir tout le temps. Si je vous posais la question ce matin, comment définiriez-vous la vie spirituelle ? Qu'est-ce que vous diriez ? Plein. Pardon ? Un combat ? La tradition chrétienne en propose une. Je vous la propose. Notre vie spirituelle et notre capacité à recevoir et à donner de l'amour. À recevoir et à donner de l'amour. En relation avec Dieu et en relation avec nos frères et sœurs. C'est pas mal ça comme définition. La vie spirituelle et notre capacité à recevoir et à donner de l'amour en relation avec Dieu et en relation avec nos frères et sœurs. La santé de notre vie spirituelle est basée sur le fait de recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs de la part de Dieu. Et en retour, restituer cet amour envers Dieu et envers les frères et sœurs, avec un prolongement, bien sûr, dans le monde. Pierre nous l'a rappelé ce matin. Jésus dit dans Luc 10, 27, il rappelle le décalogue, Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. La transformation que Dieu opère en nous, en nous appelant à suivre Jésus, a pour but de nous faire devenir à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Qu'est-ce qui a le plus déterminé la vie de Jésus sur terre? Bien, je crois qu'une des caractéristiques majeures, c'est qu'il était défini et qu'il agissait rempli et guidé par l'amour. Jésus est la personne qui a le plus reçu l'amour de Dieu dans sa vie. Matthieu 3, 17. Il est aussi celui qui a manifesté le plus l'amour envers Dieu. Jean 14, 31. Et envers ses frères et sœurs. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus avait une vie spirituelle épanouie, la plus épanouie qui soit. Et il nous appelle à entrer dans cette même vie-là, chacun de nous. Il nous appelle à être aimé. Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il nous appelle aussi à aimer Dieu. Nous avons lu le commandement principal, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et il nous appelle à aimer les frères et sœurs. Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On part au Japon, Kosuke Koyama. On renouvelle un peu les références. L'amour a sa propre vitesse. C'est une vitesse spirituelle. C'est une vitesse différente de la vitesse technologique à laquelle nous sommes habitués. Elle agit dans la profondeur de notre vie, que nous le remarquions ou non, à 5 km/h. C'est la vitesse à laquelle nous marchons et donc la vitesse à laquelle marche l'amour de Dieu. Jésus n'a pas couru. Il a pris le temps de marcher à la vitesse de l'amour. Il s'est arrêté pour protéger la femme adultère. Jean 8. Il a pris le temps de guérir la femme à la perte de sang, alors que tout le monde l'a repoussée. Marc 5. Il est allé manger chez Zachée. Luc 19. Il a pris le temps de prendre les enfants dans ses bras et de les bénir, alors que les disciples essayaient de s'interposer. Marc 10. Il est allé à la rencontre de la Samaritaine, vous vous souvenez, à midi, au puits. Jean 4. Il a pris le temps de laver les pieds de ses disciples. Jean 13. Alors qu'il allait être crucifié. Il partait s'isoler pour prier la journée, la nuit. Jésus marchait à la vitesse de l'amour. Il avait plein de choses à faire, mais il avait le temps. Il y a une vérité avec laquelle nous devons faire face. Courir comme habitude dans la vie sabote complètement notre vie spirituelle. Bien sûr, je le redis, nous devons être actifs, travailler, faire des choses, mais sans jamais oublier de marcher comme Jésus, en étant toujours prêts à nous arrêter pour Dieu ou pour un frère ou une sœur. En d'autres termes, en étant toujours prêts à aimer. Alors vous allez me dire, mais comment être prêt à aimer ? Eh bien, en étant rempli d'amour. Facile, ça. Comment être rempli d'amour ? En prenant le temps d'être aimé. C'est pas si compliqué au final. Comment être plein d'amour ? En prenant le temps d'être aimé. Ça paraît simple, mais si je faisais lever la main en demandant qui prend le temps d'être aimé par Dieu chaque jour, ce serait peut-être pas si simple. L'amour que l'on a en nous ne grandit pas parce que nous lisons un livre sur l'amour ou parce que nous avons une plus grande connaissance intellectuelle de ce qu'est l'amour. Notre capacité à aimer augmente parce que nous expérimentons l'amour, parce que nous recevons de l'amour de Dieu et des frères et sœurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si je ne me sens pas aimé, ça a été longtemps mon cas, ça fait partie des traumatismes dont j'ai dû être guéri. Je n'ai pas d'autre choix que d'être aimé pour que mon vase se remplisse. Notre capacité à aimer augmente parce que nous expérimentons l'amour, parce que nous recevons de l'amour de Dieu et de la part des frères et sœurs. Et ça, vous savez quoi ? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Bâtir une relation d'amour avec quelqu'un, qu'elle soit amicale ou dans le cadre du mariage, ça prend du temps. Un Américain, docteur en psychologie, Anthony Whitham, a dit que amour, ça s'appelle T-E-M-P-S. Tant l'idée derrière cette citation est que le plus grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est notre temps. Parce que notre temps, il est limité. On ne peut pas l'allonger. Il est précieux. Et qu'il ne se récupère pas. C'est un amour incarné, un don. Concret. Quand on bâtit une relation avec quelqu'un, on ne cherche ni la vitesse ni l'efficacité. Ce n'est pas une tâche que l'on effectue le plus rapidement possible pour passer à autre chose. Ce n'est pas ça, bâtir une relation. Et ceci est valable dans notre relation avec Dieu. Bâtir une relation avec Dieu, ce n'est pas se dépêcher de lire sa Bible en 3 minutes, prier 20 secondes pour faire ce que je veux le reste de ma journée. Je ne suis pas en train de bâtir une relation avec Dieu, là. Je suis juste en train d'être légaliste et pour dire « Ouais, moi j'ai lu ma Bible et j'ai prié. » Mais ce n'est pas ça que Dieu recherche. Si je construis une relation avec Dieu, je comprends que c'est pour toute la vie et même pour la vie éternelle. Et que dans cette relation, Dieu veut prendre le contrôle de tout. De tout ce qui me concerne, mes finances, mes relations, ma nourriture, mes loisirs, ma vie sexuelle. Il se mêle de tout. Et comment est-ce que je réponds à ce désir de Dieu de prendre en charge ma vie pour la transformer? Eh bien, en lui donnant mon temps et mon attention. Le temps que je lui consacre en priant, en lisant la Bible, en lisant un livre chrétien, en me baladant dans la nature, sans être pressé, sans avoir autre chose en tête qui me préoccupe. C'est ce temps-là que Dieu recherche. Vous connaissez C.S. Lewis. Il a dit « Nous sommes tous des créatures pas complètement finies. Nous nous amusons avec l'alcool, le sexe et l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des gâteaux de boue dans un bidonville parce qu'il ne peut imaginer ce que signifie l'offre d'un séjour à la mer. » On est comme ça parfois, hein? Être pressé impacte notre relation avec Dieu et ça impacte aussi nos relations les uns avec les autres. Comment donner de l'amour à notre époux ou notre épouse sans le temps nécessaire à cela? Travailler pour subvenir aux besoins du foyer, s'occuper de la maison, des enfants, oui, c'est important, bien sûr. Mais cela ne remplace pas le temps nécessaire à la construction d'une relation amoureuse. Et je vous garantis que je me prêche à moi en premier quand je dis ça. D'accord ? C'est pas parce que c'est important que ça remplace. Comment démontrer notre amour à nos enfants si on n'a jamais de temps pour eux ? Acheter des choses pour eux ne peut pas remplacer l'amour, le jeu, les souvenirs que le temps me permet de leur donner. Comment expérimenter l'amour fraternel dans l'Église si nous sommes toujours occupés à autre chose et que nous n'y consacrions aucun temps? Moi, je ne sais pas faire. Développer des amitiés, se confier, s'entraider, s'avertir ou se reprendre, prier ensemble, témoigner ensemble, etc. Toutes ces marques d'amour demandent du temps. Et nous aurons compris ce matin que même si l'amour inclut de temps en temps de belles paroles, c'est important, il demande du temps pour se démontrer et s'expérimenter. Et c'est pour ça que ce n'est pas surprenant dans 1 Corinthiens 13, n'affiche pas. Ah, c'est trop tard. Quelle est la caractéristique première que Paul donne à l'amour? Vous auriez choisi celle-là? Pas moi, hein? Toi, oui. Joël, toi, tu es trop spirituel. L'amour est patient. Ah, mince, Paul, il avait compris, lui. L'amour est patient. Il demande du temps. L'amour d'aujourd'hui pressé, ce n'est pas de l'amour. Ça n'est pas de l'amour. Et dans la même phrase, il va finir par l'amour supporte tout. Il est patient au début et à la fin, il supporte tout. Waouh! Traduction dans notre langage de ce matin, l'amour n'est pas pressé. Il prend le temps nécessaire pour écouter, être présent et manifester compassion et pardon. C'est un peu plus long ce matin, mais vu le thème du message, vous ne pouvez pas me le reprocher à la fin. Nous ne réalisons peut-être pas assez combien le monde dans lequel nous vivons est violent. Il est vraiment violent. Alors peut-être chez nous, pas au sens de la guerre, vous savez, comme en Ukraine ou au Moyen-Orient, mais il est violent, car cette course effrénée, cette pression dans laquelle chacun de nous évolue, qu'est-ce qu'elle fait? J'en ai déjà un peu parlé. Eh bien, elle brise des familles. En France, le divorce concerne 45% des couples mariés, ce qui équivaut à peu près 120 000 divorces en 2023. Cette course effrénée, elle pousse des gens au suicide. Si ça, c'est pas violent. 9 000 décès, soit près de 25 décès par jour et 200 000 tentatives par an. Elle plonge beaucoup de personnes dans l'anxiété ou la dépression. En 2021, 4,4 millions de Français ont pris des antidépresseurs ou des régulateurs de l'humeur et 4,2 millions ont pris des anxiolytiques, ce qui fait presque 9 millions à être traités pour des symptômes anxieux. Le monde dans lequel on vit est violent. Et sa violence, c'est de nous presser. Alors, c'est quoi la solution face à cette course effrénée? Avoir plus de temps, Julien? On pourrait demander, non? Des journées de 27 heures, des semaines de 10 jours au lieu de 7. Ça, on les a déjà. Il est prof aussi. Il a dit des vacances de 2 mois pour la... En pensant comme ça, on est en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé au moment de la création, qu'il n'avait pas anticipé nos agendas en 2025. Mais je pense que ce n'est pas lui qui s'est trompé. C'est peut-être nous qui nous trompons aujourd'hui. Si nous avions plus de temps, nous le remplirions encore avec d'autres choses, d'autres activités, d'autres distractions. Et nous serions encore plus rapidement exténués ou en burn-out. La solution est simple, c'était le titre. Ralentir et simplifier sa vie, son agenda pour laisser plus de temps à quoi? Premièrement, à être aimé par Dieu. L'expérimenter vraiment. Et plus souvent, l'aimer en retour, en priant, en méditant sa parole, en passant du temps avec Dieu pour développer notre relation avec lui. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller me balader. Vous savez, c'est pas compliqué. Parfois, on se met des montagnes, mais allez vous trouver un coin de garrigue. Allez à la mer et baladez-vous avec le Seigneur. Ça fait tant de bien. Et ça construit notre relation. Et aussi en se laissant aimer et en aimant nos frères et sœurs. Que voulons-nous, frères et sœurs, dans notre vie? Que voulons-nous qui nous définisse en tant que personne et qui définisse nos actes? Est-ce que vous voulez que ce soit la pression et le stress, ou est-ce que vous voulez que ce soit l'amour que vous avez reçu et que vous êtes donc en capacité de donner? Donnons à cet amour le temps dont il a besoin. D'accord? En sacrifiant d'autres choses, des activités, des loisirs, parfois un certain niveau de revenu. On veut toujours plus. Dès l'origine du péché en Genèse 3, le diable nous presse pour que nous allions toujours au-delà, au-delà de nos limitations. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez comme Dieu. Et il nous pousse pour que nous nous dépassions en énergie, en fatigue, en possession, et donc, inévitablement, dans le temps. Il veut que nos vies soient dans un rythme effréné pour que nous soyons précipités avec lui dans le péché et la destruction. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais devenir chrétien, je crois que c'est aussi admettre et accepter que nous sommes limités. Nous sommes des êtres limités. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout posséder. Bien qu'en réalité, nous possédons déjà tout, la Bible nous dit, car nous appartenons à Jésus. 2 Corinthiens 6, la fin arrive, je vous rassure. Versets 8 à 10. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. J'ai pas mis la suite, j'ai oublié, donc je continue. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons toute chose. Nous avons donc le droit et le pouvoir de ralentir le rythme de nos vies et de consacrer plus de temps à ce qui est important. Et qu'y a-t-il de plus important que de prendre le temps d'être aimé et d'aimer Dieu et mes frères et sœurs? Prenons en charge notre croissance, notre vie spirituelle. Prenons le temps de laisser Dieu agir, guérir, libérer nos vies. C'est vraiment important. Si nous ne voulons pas que dans 10 ans, être toujours dans les mêmes luttes, dans les mêmes combats. Parce que ce n'est jamais la puissance de Dieu qui est trop faible. Dieu a le pouvoir de nous guérir, les amis, de choses parfois innommables. Dieu a ce pouvoir. Le Saint-Esprit peut toucher et guérir toute chose en nous. Prenons le temps de la relation d'amour à laquelle nous sommes appelés avec Dieu et avec les frères et sœurs.